Bonjour à tous. Ce matin, je vais prendre la suite de Luc. Son message de la semaine dernière m'a fait réfléchir. C'est son talent d'aborder les choses d'une façon différente de celle dont on a l'habitude et de nous amener à réfléchir. Il nous a posé une question la semaine dernière, du moins il a commencé son culte avec cette question: que ferait Jésus à ma place? Et il a développé sa réflexion autour de l'idée de la... Finalement, alors je le redis comme ça, hein, excuse-moi Luc, hein, si je retransmets ce que j'ai compris et entendu, donc sur la divinité de Christ et sur le fait que En réfléchissant à ce que Jésus faisait, il s'est rendu compte que Jésus était Dieu et que lui ne l'était pas, et que comment est-ce qu'on peut prendre la place de Dieu. Et c'est effectivement important de se rendre compte que la puissance de Jésus, sa mission, n'est pas la nôtre, et il faut prendre ça en compte quand on regarde vers lui. Et en même temps, donc il a conclu en parlant de la joie de Jean-Baptiste qui dès le sein de sa mère voyait arriver le sauveur de l'humanité. Et c'est de cette joie aussi que je veux repartir en abordant finalement la personne de Jésus à travers un autre aspect de ce qu'il est, à savoir un homme. Je me suis assez largement inspiré de ce livre de Kuhn, qui nous parle de l'homme qui s'appelle Jésus et qui reprend simplement différents aspects de sa vie où son humanité est souligné. C'est cette dimension-là que j'ai envie de partager avec vous ce matin, en m'inspirant de ce que Pierre nous dit. Et donc je lis ça comme premier passage dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 21, où Pierre nous parle des souffrances que Jésus a endurées. Et il dit: c'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Alors c'est vrai, Jésus ne nous donne pas de mode d'emploi pour notre vie, mais il nous donne des traces à suivre. S'il avait été seulement Dieu, on n'aurait pas vu de traces, il aurait été au-dessus de notre humanité, mais il a été un homme qui a laissé des traces, et nous avons besoin de les regarder aussi, de les interpréter. On ne peut pas simplement regarder sa vie et penser qu'on va faire strictement la même chose, mais les traces de Jésus nous invitent à le suivre. La première trace que j'avais envie de partager, donc qui fait suite à ce que Luc partageait à la fin, c'est que Jésus est le maître de la joie. Le maître de la joie dans le sens qu'il est celui qui nous enseigne la joie. On sait que dans sa vie, il a profité des moments de joie qui se sont offerts à lui avec ses disciples, avec ceux qu'il a rencontrés. Quand il a eu l'occasion de vivre des moments de joie, il les a saisis. Et on sait aussi, bien sûr, que sa vie a été difficile, et on va y revenir. Mais sa joie est malgré tout restée intacte. Et Jésus nous donne une parole magnifique, en fait, dans Jean 15, quand il prie pour ses disciples, alors qu'il s'apprête à partir. Donc c'est dans Jean 15 au verset 11. Et il dit: tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. La joie de Christ était indestructible. Elle était fondée sur l'amour de Dieu pour lui. Cet amour le remplissait. Il a vécu sa vie inspirée par cet amour. Il l'a transmis aux hommes. Et cet amour fondait sa joie. Les Français sont connus pour être un peuple particulièrement pessimiste. Il y a des études en fait, hein, qui lient assez facilement le niveau de vie en fait, avec le niveau de bonheur estimé. En fait. Et les Français, on a un niveau de vie qui est relativement élevé par rapport à l'ensemble de l'humanité. Et en fait, on est donc sur une note de 10, en fait, on est systématiquement 2 points en dessous. On devrait être à 7 ou 8 de bonheur, en fait. Et les Français sont systématiquement à 5 ou 6. Ils se trouvent de toute façon très, très mal lotis, très malheureux, etc. Et Jésus, lui, nous donne sa joie. Et il accomplit, en fait, cette parole que le prophète Néhémie donnait en disant « La joie de l'Éternel sera notre force. » La joie de l'Éternel sera notre force. L'amour de Dieu pour nous, cet amour que rien ne peut diminuer, que rien ne peut annuler, cet amour est la source de notre joie. En m'interrogeant sur quels aspects de la vie de Jésus pouvaient me rejoindre en fait dans mon humanité, je réfléchissais à un des aspects les plus importants, qui est effectivement la famille et la vie de famille. Et c'est vrai que je me disais moi aussi que finalement Jésus n'a pas été marié, il a pas eu d'enfant. Je me disais effectivement, donc sa vie de famille, on a du mal à se retrouver et à se projeter dedans. Et en lisant donc le livre de Kuhn, soulignait que Jésus a eu des frères, il a eu des sœurs, il a eu un père, il a eu une mère, un père adoptif, Joseph. Et même si ce n'est pas explicitement dit dans les évangiles, on sait que son père est mort avant que son ministère ne commence. On n'a pas de date exacte. Un apocryphe parle du fait que Jésus avait 19 ans quand Joseph est mort. Mais on sait qu'effectivement, son père n'était plus là au moment où son ministère commence. Et on sait qu'il avait des frères et des sœurs, plusieurs frères, plusieurs sœurs. Et on sait aussi qu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. On sait qu'il a été charpentier, comme son père. Et ça nous montre simplement que Jésus, pendant les 15 années de sa vie d'adulte, avant son ministère, de 15 à 30 ans, que Jésus, eh bien, il a été le frère aîné d'une famille sans père, qu'il a été un chef de famille. Cette dimension-là m'était jamais apparue. Ça, j'avais jamais vraiment réfléchi à cette dimension-là, mais son ministère a duré 3 ans, et pourtant, pendant 15 ans, il a été charpentier. Pendant 15 ans, il s'est occupé de sa famille, occupé de ses frères et sœurs plus jeunes. C'est lui qui a subvenu aux besoins de sa famille, comme nous. Et pourtant, lui aussi, alors plutôt du moins lui, a subi l'incompréhension, voire le rejet de sa famille et de ses frères et sœurs. On peut lire ça, et je vais lire plusieurs passages qui soulignent cette dimension-là. Je vais commencer dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, et au verset 20. Donc Marc 3, au verset 20. Donc là, Jésus se trouve en Galilée. Jésus alla à la maison, et de nouveau la foule s'y pressa, au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Et ensuite, les spécialistes de la loi, eux, continuent en parlant du fait que Jésus est possédé par Belzébuth. On lit un peu plus loin, au verset 31, toujours du même chapitre 3. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» En promenant ses regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Un autre passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, je vais lire les 13 premiers versets, donc Jean 7, 1 à 13. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que, là aussi, tes disciples puissent voir tes œuvres que tu accomplis. Parce que quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste. » Parce que je témoigne que ces actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. Jésus s'est occupé de ses frères et sœurs pendant une quinzaine d'années. Et quand il commence son ministère, ses frères, ses sœurs, et même sa mère, ne comprennent pas ce qu'il fait. Il lui demande d'abord de revenir à la maison, donc c'était effectivement lui, le chef de famille, celui qui s'occupait de pouvoir à ses besoins. Donc ses frères, peut-être, avaient l'âge suffisant pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, la première réaction, c'est de dire, bon, maintenant, arrête et rentre à la maison. On voit plus tard que là, ses frères, en fait, ont une attitude opposée. Donc ils se disent, bon, mais alors, puisque tu es si fort que ça, ben, maintenant, il faut, ben, vas-y, fais-toi connaître, fais un peu de pub. Au niveau communication, là, t'es pas au point, il faut que tu sois reconnu et que tu puisses faire tes miracles devant tout le monde. Donc, et dans les deux cas, on voit que, eh bien, simplement, ils ne croient pas en lui. Ils ne croient pas en lui, ils ont vécu plus longtemps que les disciples. Eux, ils ont vécu 15 ans, enfin 30 ans avec lui. Et pourtant, ils ne comprennent toujours pas et ils rejettent son ministère. Et comment est-ce que Jésus réagit à cette tension entre ce que sa famille attend de lui et ce que Dieu attend de lui? Jésus va avoir une conscience aiguë de sa mission, une conscience aiguë de ce que le Seigneur attend de lui, de son appartenance, Et Jésus va choisir le royaume de Dieu. Il a pris soin de sa famille pendant des années, et à un moment donné, il va dire, maintenant, je m'engage dans le royaume de Dieu, dans la propagation, dans l'annonce, dans l'avènement de ce royaume. Jésus nous dit, celui qui veut me suivre doit savoir renoncer à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Il le dit pour nous et lui l'a vécu. Alors nous aussi, bien sûr, parfois, nous avons à vivre cette tension entre ce que notre famille attend de nous et ce que Dieu nous demande. Parfois, notre famille est chrétienne, parfois elle ne l'est pas. Mais quelle que soit notre situation familiale, on a à arbitrer cette tension-là. Et on voit que Jésus, par sa vie, ne nous encourage pas à abandonner notre famille. La plus grande partie de sa vie, il s'en est occupé. Mais il nous invite à nous demander quelle est la mission que Dieu m'a donnée et quelle est la priorité que je place. Où je place cette priorité. Et évidemment, la réponse à cette question appartient à chacun. Oui, qui je suis, moi, pour pouvoir répondre à votre place. Je cherche pour ma propre vie et ma propre famille à savoir comment je dois arbitrer entre mon engagement dans l'Église, par exemple, mais pas seulement. Et ce que ma famille et mes enfants attendent de moi. Un autre aspect de la vie de Christ concerne les difficultés matérielles. Comment est-ce que Jésus a géré l'argent, les choses qu'il pouvait posséder. Donc, le contexte, d'abord, on sait que Jésus était, comme je l'ai dit, un ouvrier, un charpentier, donc qui s'occupait d'une famille nombreuse. Donc, même s'il n'était pas miséreux, on sait que il était clairement pas riche. Qu'il a dû probablement lui aussi faire face à des fins de mois difficiles. Je pense qu'à cette époque-là, les salaires ne tombaient probablement pas à la fin du mois, mais il a dû faire face aux difficultés matérielles quand il était avec sa famille. Et quand son ministère a commencé, il dit de lui-même que pour le suivre, il fallait accepter de n'avoir pas un endroit où poser sa tête. On sait qu'il a dormi dehors, plus souvent qu'à son tour, qu'il a connu la faim, qu'il a connu le froid. L'Église a discuté pendant des années, des dizaines d'années, savoir si Jésus était possédé sa tunique ou pas, pour arriver à savoir si l'Église avait le droit d'être riche ou pas. Quoi qu'il en soit, il a vécu dans la pauvreté. Et la parole nous le rappelle à plusieurs reprises. Quand il a dû payer l'impôt du temple, c'est avec un miracle qu'il a réussi à trouver la pièce qui lui a permis de payer cet impôt. Il n'avait pas d'argent dans ses poches. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et c'est quelque chose que lui a vécu. Il n'était pas fils de roi, pour s'appuyer sur la trésorerie paternelle. Il était un pauvre qui comptait sur Dieu pour subvenir à ses besoins quotidiens. Et je vais lire un passage qui m'a touché, en fait, sur la façon dont Jésus abordait la, on va dire, la propriété ou la richesse. On trouve ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, juste avant sa mort. Donc je lis à partir du chapitre 14 de l'évangile de Marc, à partir du verset 3. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum d'un nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux : « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus lui dit : « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. » Ce qu'elle a accompli pour moi est une belle action. 300 pièces d'argent, c'est une somme conséquente. Et le fait de se dire qu'on aurait pu l'utiliser pour la donner aux pauvres, ça apparaît comme quelque chose de parfaitement légitime et une bonne façon de gérer l'argent. Et pourtant, Jésus, lui, il a un autre regard sur cette dépense-là. Il met d'autres valeurs sur cet acte. Lui, il dit, c'est une belle action. Une action qui va porter du fruit jusque dans l'éternité, jusque dans le royaume de Dieu. Une action dont on parlera pendant des siècles à venir. Un trésor a été construit, amassé dans le ciel avec cette façon de dépenser l'argent. Jésus avait une autre façon de voir la richesse, de voir la façon dont on peut se servir de ce qu'on a. Et il nous interroge sur la façon qu'on a, nous aussi, de gérer ce qu'on a, de gérer la façon dont on le dépense, et de la façon dont on place notre échelle de valeur. Et encore une fois, je ne peux pas répondre à votre place. Je peux simplement m'interroger sur la façon dont moi je fais face aux incertitudes matérielles qui sont devant moi. Est-ce qu'elles me font grandir vers Dieu ? Est-ce qu'elles me poussent à lui faire davantage confiance ? Est-ce que je les affronte avec par la prière ou en mettant en œuvre ce que mon banquier pourrait me conseiller de mettre en œuvre pour gérer mon argent ? Quelles sont les valeurs que je mets en œuvre quand je gère ce que Dieu m'a donné ? Une troisième et dernière aspect de l'humanité de Christ et de la façon dont elle me rejoint, la maîtrise de son corps, la façon dont Jésus a été capable de gérer, de résister à la tentation. Alors vous connaissez tous ce passage hein, de Jésus amené au désert par l'Esprit. On peut lire ça dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 4. Ça, c'est pas ça. c'est pas le chapitre 4. Je me suis trompé. Luc chapitre 4, hein, merci, c'est peut-être ça, je me suis trompé d'évangile, merci. Luc chapitre 4. Donc Luc chapitre 4, verset, on va lire les quatre premiers versets, on va s'occuper de la première tentation seulement. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit dans l'Écriture, « L'homme n'a pas besoin seulement de pain pour vivre. » Et alors c'est peut-être dans Matthieu que je lisais ça, mais il continue en disant, « L'homme a besoin de la parole de Dieu. » Alors je le redis mal, mais... Le besoin légitime de nourriture, Jésus va le subordonner, le mettre en dessous du besoin qu'a l'homme de la présence de Dieu. Jésus aurait pu effectivement là accomplir un miracle, transformer la pierre en pain et se nourrir. Mais il aurait utilisé la puissance que Dieu lui a donnée pour son propre bénéfice. Et lui met en avant la parole de Dieu, la présence du Seigneur dans ses actions au jour le jour. Pendant la quinzaine d'années où il a eu un métier, il a, pour autant qu'on le sache, accompli aucun miracle. Il n'a pas multiplié des pains quand sa famille en avait besoin. Il n'a pas, coupé les arbres avec ses mains. Il a vécu comme un ouvrier en transpirant pour gagner son pain. Il a affronté les difficultés, affronté, eh bien oui, là, la tentation d'utiliser sa puissance pour sa propre satisfaction. On voit dans le reste de sa vie qu'au moment où il était affamé, assoiffé, fatigué, il a su mettre ses besoins de son corps au second plan pour enseigner quand les hommes et les femmes qui étaient autour de lui en avaient besoin, pour parler à une femme au bord d'un puits alors qu'il était... qu'il était assoiffé, il a d'abord choisi de lui parler et de transformer sa vie et de transformer la vie du village dans lequel elle habitait. Il a maîtrisé son corps. Il a aussi maîtrisé ses pensées. Jésus a été pendant toute la durée de son ministère entouré de femmes. À aucun moment, personne n'est venu lui reprocher une attitude équivoque avec les femmes qui étaient autour de lui. Contrairement à la coutume de l'époque, Jésus parlait avec les femmes, quelle drôle d'idée. Il s'intéressait à elles, il les enseignait, il leur parlait de leur vie. Il pouvait être proche d'elle. Et pourtant, personne ne lui a reproché de manquer aux bonnes mœurs. Jésus nous a dit de maîtriser nos regards, de maîtriser la façon dont on pouvait penser. Il a accompli ça dans sa vie d'homme, puisqu'il était un homme comme nous. Il a su maîtriser son corps, maîtriser les tentations qui étaient devant lui. Il a fait ce choix-là d'être sans reproche devant Dieu. Donc j'arrive à la fin de ce que je voulais partager, avec vous, de cette humanité de Christ, de la façon dont cette humanité rejoint la mienne, dont elle m'interroge sur la façon dont j'utilise mon temps, la façon dont je gère ma famille, dont je gère mes biens, dont la façon dont je gère mon corps. Jésus est un homme qui a fait des choix, qui a mis le règne de Dieu dans sa vie, dans le monde. Il a mis ce règne au sommet de ses valeurs. Dans les choix qu'il a faits, c'est ce règne-là qui a toujours été ce qui a conduit ses choix. Et c'est vrai qu'il ne nous donne pas de mode d'emploi pour faire nos propres choix. Il n'y a rien qui est écrit sur comment on doit répondre à chaque situation de notre vie, mais il nous a donné des traces. Il nous les a laissés pour qu'on les suive. Qu'on les suive avec la force qu'il nous a donnée. Et les choix que Jésus a faits ne sont pas trop hauts pour que nous-mêmes, nous ne les fassions pas. C'est vrai que ces miracles sont au-delà de notre portée. C'est vrai que sa mission n'est pas la nôtre. La mission de Christ, c'était de sauver l'humanité. Mais notre mission, c'est d'être ses témoins. Alors, comment est-ce que nos choix reflètent cette mission qu'il nous a donnée? Lui a mis en place un système de valeurs qui était différent de celui du monde, différent de celui des gens autour de lui. Et nous-mêmes, nous avons à nous interroger sur nos valeurs, sur... Qu'est-ce que nous mettons en haut? Le monde, le monde place le plaisir, le corps. Jésus a mis son corps au service de l'esprit. Notre monde nous invite à nous mettre au service de notre corps. Les plaisirs, les richesses. Tout cela fait partie de ce que le monde nous propose. Jésus nous propose un autre système de valeurs qui s'accompagne de souffrances, bien sûr. Mais, et je termine avec ça, ces souffrances ne sont rien face à la joie que le Christ nous donne, parce que le Christ nous fait rentrer dans cet amour de Dieu, cet amour qui surpasse tout. Les chrétiens n'ont pas souvent la réputation d'être des gens joyeux, alors peut-être que le monde regarde la joie à travers la fête et ses excès, mais... nous avons à témoigner de la joie autour de nous, de la même façon que le Christ a été un homme joyeux qui a su vivre avec ceux qui étaient autour de lui et leur transmettre, c'est vrai, cette joie. Le monde nous regarde et nous sommes les images que Dieu a choisi de donner de lui-même. Alors, je termine avec ça, que la joie de Dieu soit votre force, que la joie de Dieu soit ma force.